Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Oui? Est-ce que vous êtes heureux d'être réunis, rassemblés pour honorer Dieu et sa parole au milieu de nous? Amen. Alors on débute une nouvelle thématique en ce dimanche, la thématique Sola. Alors Sola, c'est quoi? Ce matin, nous allons voir le premier des Sola qui est le Sola Scriptura. Donc Sola, c'est du latin, alors rassurez-vous, je préfère vous mettre à l'aise tout de suite. Avec Michel, on ne s'est pas retrouvés ensemble un temps la semaine dernière en se disant « maintenant on va commencer à prêcher en latin à l'église ». Donc le seul latin qu'on va faire, c'est quelques mots-là, mais sinon on va bien prêcher en langue française. Donc cette année, nous fêtons les 500 ans de la réforme protestante. Et à cette occasion, on a eu à cœur de pouvoir aborder une série de messages qui va aborder les fondements, les cinq fondements de la foi chrétienne protestante dont nous sommes issus. Nous voulons profiter de ce temps d'anniversaire pour affirmer et réaffirmer avec conviction ces piliers de notre foi personnelle. Alors on va commencer avec un petit peu d'histoire. Que s'est-il passé? Le 31 octobre 1517, un moine allemand, Martin Luther, professeur de théologie et d'écriture sainte à l'université de Wittenberg, a affiché 95 thèses sur la porte de l'église de la ville. Ces thèses, elles protestaient contre le trafic des indulgences. Depuis les croisades, les papes publiaient des indulgences qui étaient des remises de peine censées raccourcir le séjour au purgatoire en échange d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Donc, dans la théologie catholique, le purgatoire, c'est un lieu de purification où les âmes des défunts croyants, donc ceux qui croyaient en Jésus, pouvaient expier leurs péchés dont ils n'avaient pas fait une vraie pénitence ou une pénitence complète avant leur décès. C'était un temps et un lieu censé les libérer complètement du mal. Alors, bien sûr, ça, c'est la théologie catholique, puisque nous croyons la parole de Dieu qui déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, et nous croyons que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour nous donner la vie éternelle pour ceux qui placent sa foi en lui. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses par nos propres, faire pénitence dans un lieu pour rajouter à quelque chose. Le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour nous donner la vie. Amen. Donc voilà pour la petite définition du purgatoire. L'une de ces indulgences a servi à financer la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Luther? C'est au travers de la Bible que Luther a découvert que l'homme ne pouvait pas être sauvé en fonction de ses bonnes œuvres, mais uniquement au travers de la foi en Jésus-Christ. Et alors, du coup, Luther, il a découvert ça et il a commencé à prêcher ce message. Il a commencé à prêcher ça dans l'Église et l'Église catholique romaine s'est farouchement opposée à lui parce que ça commençait à mettre en péril leur petit commerce, leur fonds de commerce. Et comme le souligne Pascal Denot, qui est un pasteur réformé baptiste au Canada, Luther et tous ceux qui étaient de son avis se sont retrouvés devant un dilemme. Ou bien l'Église catholique romaine a raison, ou bien la Bible a raison. Mais les deux ne peuvent avoir raison. Alors je vous ai affiché deux petites thèses sur les 95 pour vous situer un peu ce qui a été affiché sur cette église. La thèse 21 nous dit « Ils errent donc les prédicateurs des indulgences », donc ceux qui disaient aux gens « il faut que vous payiez pour vous épargner quelques années de purgatoire ou épargner quelqu'un de votre famille du purgatoire ». Donc il dit « Ils errent donc les prédicateurs des indulgences qui disent que par les indulgences du pape, l'homme est quitte de toute peine et qu'il est sauvé ». La thèse 27 nous dit « Il prêche l'homme, ceux qui disent qu'aussitôt tintera l'argent jeté dans la caisse, une fois que ça va faire gling, 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 on va être, huit, on va s'envoler. Il prêche l'homme, ceux qui disent qu'aussitôt tintera l'argent jeté dans la caisse, aussitôt l'âme s'envolera du purgatoire. » Voilà quelques exemples, il y en a plein d'autres. Mais de tout ce travail de Luther, tout ce qui va prendre place dans la méditation de la parole, vont émerger cinq déclarations en latin à propos du salut de l'être humain. Les cinq sola, sola scriptura qui est déroulé ce matin, mais sola fide, la foi qui est matérialisée par ses mains, solus Christus, avec matérialisé par la croix, sola gratia, matérialisée par le cœur, et finalement soli deo gloria, à Dieu seul la gloire, qui est matérialisée par la fleur de lys, symbole de la royauté. La Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. C'est ce que nous dit Sola Scriptura. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce que nous dit Solus Christus. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule. C'est ce que nous proclame Sola Gratia. Le salut est donné par la foi seule. C'est ce que nous dit Sola Fide. La foi est le moyen de la grâce. C'est le moyen par lequel nous saisissons la grâce de Dieu. Et finalement, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu seul. Après avoir fait ce petit... d'avoir dépeint ce côté historique, j'avais envie aussi qu'on s'intéresse un petit peu sur l'histoire de notre ville, ici Strasbourg. Strasbourg a toujours été une plaque, un endroit où se retrouvaient toutes les influences protestantes. Il y a eu un grand réformateur en Alsace appelé Martin Bucer, qui a été amené à la foi par Luther, mais dans la suite, il commença à accepter plusieurs points des idées de Zwingli, qui était un autre réformateur. Zwingli, lui, il allait un peu plus loin que Luther. Il disait que tout ce qui n'était pas positivement enseigné dans l'Écriture sainte devait être aboli à ses yeux. Donc lui, il n'y avait plus les statues, plus tout ça. On ne se réunissait à l'église que pour prier, pour lire la Bible et entendre la prédication. Parce qu'il y a encore un peuple qui a soif d'entendre la parole de Dieu, d'entendre ce que Dieu a à lui communiquer. Alors l'église de Strasbourg, à cause de ça, elle reçut en conséquence une organisation originale intermédiaire entre le luthéranisme et le zwinglianisme. Mais ce n'est pas fini. Bucer va faire devenir pasteur dans cette ville entre 1538 et 1541, Jean Calvin, le grand réformateur français. Et on sait que Jean Calvin va aussi affiner la pensée théologique de Martin Bucer. Ce qui fait de la ville de Strasbourg un endroit où les influences protestantes se retrouvent et se rejoignent. Et nous, évangéliques, on n'est pas oubliés dans la petite histoire. Michel me racontait comment, dans les débuts du mouvement de Pentecôte, quand les pentecôtistes sont arrivés en Alsace, ils ont dit « ça y est, enfin, l'évangile est annoncé en Alsace ». Et ils faisaient des petits traités pour dire ça. Il faut savoir que c'est une erreur. Les évangéliques sont à Strasbourg depuis 1520, en même temps que la Réforme. Ils ont été représentés par les anabaptistes et les mennonites, influencés par le prédicateur Menno Simons. Alors, les anabaptistes, c'est quoi? C'est des gens qui baptisaient des personnes qui croyaient en Jésus-Christ, qui acceptaient Jésus comme sauveur. Donc, les anabaptistes étaient connus pour rebaptiser les protestants et les catholiques qui venaient à la foi évangélique, si on peut dire. C'est ce qu'on oppose entre le pédobaptisme, baptiser les enfants, et le credo-baptisme, qui baptise quelqu'un sur le credo, c'est-à-dire sur une confession de foi. Donc, les évangéliques sont sur la place ici depuis 500 ans. Enfin, 497 années, exactement. Les 500 ans de la Réforme sont pour nous un anniversaire national, mais ils ont une particularité, un impact aussi puissant sur notre ville de Strasbourg. Il est important pour nous de réaliser que nous sommes bénéficiaires du travail de nos prédécesseurs qui ont permis à chacun d'entre nous de pouvoir avoir la parole de Dieu, de pouvoir chacun d'entre nous méditer ce que Dieu a à nous dire et de pouvoir progresser dans notre relation avec Jésus-Christ. Et maintenant, on va se pencher sur ce que la Bible dit à propos d'elle-même. Pour ça, on va étudier un passage dans la deuxième épître de Paul à Timothée. On va aller du chapitre 3, verset 14, au chapitre 4, verset 4. Cette épître, elle est considéré traditionnellement comme le testament spirituel de l'apôtre Paul. Il est emprisonné à Rome, c'est sa deuxième détention, et il sait que suite à cette détention, sa mort va arriver. Et c'est considéré comme son testament spirituel. Le point ce matin, c'est que les Écritures seules nous révèlent notre besoin de Jésus. Les Écritures seules nous révèlent notre besoin de Jésus. De Timothée 3, 14 à 15, je commence la lecture. « Quant à toi, Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Ici, Paul encourage son jeune leader Timothée à tenir ferme dans les choses qui lui ont été transmises par la parole de Dieu. Et ce qui est fort, c'est que nous voyons un apôtre Paul qui est emprisonné, qui sait certainement qu'il va bientôt mourir, et qui dit à son jeune serviteur, « Tiens ferme ce que tu as reçu et communique-le. Base ta confiance et ta foi sur ce que tu as appris, ce qui est certain pour ta vie. » Paul ne se laisse pas embarquer par les terreurs, par les difficultés, mais il encourage son serviteur à dire « Ne lâche pas, n'abandonne pas ce que tu as appris. Appuie-toi sur ce que tu as reçu. » Alors les opinions diffèrent sur, pour savoir si les vérités que Timothée a apprises se réfèrent à ce que Paul lui aurait transmis ou alors peut-être que sa grand-mère et sa mère lui aient transmis, c'est ce qu'on voit aussi dans les épîtres à Timothée, ou même peut-être les apôtres, ou peut-être l'ensemble de ces personnes. Mais le message que Paul transmet à Timothée, c'est qu'il lui rappelait que les Écritures lui ont été apprises par ceux dont la vie témoignait la réalité de leur foi. Les modèles de Timothée déclaraient ce qu'ils croyaient et vivaient ce qu'ils proclamaient. C'est un appel pour chacun d'entre nous. En tant que croyants, nous avons besoin de dire ce que nous vivons, mais nous avons besoin de vivre ce que nous disons. C'est un message radical de vivre la parole de Dieu. Alors on est tous à l'école de Dieu, on a tous besoin de progresser, moi le premier. Mais c'est un appel à nous appuyer sur les fondements de la parole de Dieu pour avancer dans notre vie en tant que témoin de Christ. Paul encourage Timothée à rester ferme, à rester fidèle dans la profession de foi et dans l'exercice de celle-ci. Il invite à pratiquer sa profession de foi dans l'exercice de son ministère. Nous avons tous été appelés par Dieu à nous appuyer sur lui, et que ces choses-là se matérialisent dans notre vie et dans notre quotidien de tous les jours. Là où Dieu nous a placés en fonction de l'appel que Dieu nous a donné. On est tous reçus quelque chose de Dieu. Et nous sommes invités à le mettre en pratique. Pas à nous remplir et nous gonfler la tête de connaissances, mais que ça puisse être mis en pratique et que ça puisse être vécu. Paul développe en expliquant que depuis son enfance, Timothée connaît les Écritures. Paul fait allusion certainement à sa mère et la grand-mère de Timothée qui, dans le début de la lettre à Timothée, de cette deuxième lettre, l'ont probablement initié aux Écritures. Il faut savoir que dans la culture de l'Ancien Testament, des Juifs, pardon, on enseignait l'Ancien Testament aux enfants à partir de l'âge de 5 ans. Paul ajoute que ces Écritures révèlent Jésus-Christ. Les écrits de l'Ancien Testament annonçaient Christ et révélaient que la foi dans les promesses de Dieu était indispensable. Alors peut-être qu'ils ne discernaient pas tous les tenants, les aboutissants de comment ça fonctionnait, mais les croyants de l'Ancien Testament, tels Abraham, tels Moïse, attendaient la venue d'un Messie pour l'expiation des péchés. Luther écrira que les évangiles et les épîtres des apôtres ont été écrits pour être eux-mêmes ceux qui nous indiquent le chemin, et pour nous introduire dans les écrits des prophètes et de Moïse dans l'Ancien Testament, afin d'y lire et d'y voir nous-mêmes comment le Christ est contenu dans les écrits des prophètes. Le prophète Ésaïe décrira parfaitement le rôle du Messie. Vous avez déjà certainement entendu ces passages, peut-être pour d'autres c'est une première fois, mais des centaines d'années avant la venue de Jésus, le Messie était décrit, la mission de Jésus était dépeinte. Ésaïe dira, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est en étant attachés à la parole que les gens peuvent être amenés à reconnaître leur état de péché, de reconnaître qu'ils sont séparés de Dieu à cause des mauvaises choses qui prennent place en nous au fur et à mesure. Mais c'est aussi au travers de la parole de Dieu que nous pouvons saisir le cadeau de Dieu qui est en Jésus-Christ, qui lui a porté toutes nos fautes sur la croix, en mourant à la croix, afin que nous puissions être déclarés sans péché, afin que nous puissions être déclarés justes et que nous puissions être réconciliés avec le Père éternel. C'est la parole de Dieu qui nous révèle notre besoin de Jésus. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle que Jésus est celui qui répond à nos besoins. Point suivant, les Écritures seules nous façonnent pour être des disciples de Jésus. Toute l'Écriture, dira Paul à Timothée, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Luther dira, l'Écriture doit rester souveraine et juge. L'Écriture doit rester souveraine et juge. Le mot grec employé pour l'inspiration, c'est le mot théopneustos, qui signifie soufflé par Dieu, expiré par Dieu. Ce verset nous parle de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament. En effet, quand on lit les lettres de Pierre, il mentionne que les écritures de Paul sont les écritures, et Paul parle des écrits de Luc comme étant l'écriture. Par son souffle divin, Dieu a inspiré les auteurs humains afin de les rendre capables d'exprimer la vérité, l'intention, la pensée de Dieu de manière précise. Mais Dieu le fait en utilisant les propres mots, en utilisant le propre vocabulaire, en utilisant les propres expériences des écrivains bibliques. Ce n'était pas comme dans les films d'horreur où un démon prend la possession d'un mec qui commence à écrire de manière automatique. Dieu a utilisé l'esprit, la faculté de ce que les hommes avaient, leur contexte, pour parler. C'est pour ça que la Bible, elle a été écrite par des hommes d'État, mais aussi par des bergers, par des prêtres, par des pêcheurs, le métier. Elle a été écrite par toutes sortes de personnes qui n'avaient pas le même bagage universitaire, on pourrait dire, si je peux employer ce terme. Ils n'avaient pas le même bagage, mais Dieu a utilisé ce que ces gens avaient pour parler, pour nous parler, pour nous rejoindre, pour faire une transformation dans nos vies. Dieu a choisi de s'adresser aux hommes par sa parole transmise une fois pour toutes. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais le Seigneur, il parle par le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons saisir la parole. Jésus dira que le Saint-Esprit rappellera tout ce qui vient de Jésus, tout ce qui vient du Père. Mais le Saint-Esprit n'agit pas séparément de la parole ou le Saint-Esprit n'agit pas en opposition à la parole. Ce que l'Esprit fait, la parole le fait et vice-versa. Cette parole de Dieu, nous dit Paul, est là pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu, pour faire de nous qui dépendent de Jésus, qui marchent avec Jésus dans le quotidien. Elle a pour but de nous équiper, elle a pour but de nous former pour être des disciples de Jésus qui agissent en son nom et qui agissent à sa manière. Comme Jésus a marché lui-même en tant qu'homme sur la terre, dans sa relation et sa dépendance au Père, dans sa relation au Saint-Esprit et dans son fonctionnement avec ceux qui l'entouraient, nous devons faire de même, que ce soit dans notre confiance en Dieu, mais aussi dans nos attitudes et relations avec ceux qui nous entourent. Que ce soit manifesté dans notre vie personnelle, quand personne ne nous voit, aussi dans notre éthique, dans ce que nous prenons pour bon pour nos vies et mauvais pour nos vies. Vous savez, la Bible, elle a des choses à nous dire. La Bible, elle a des choses à nous enseigner. Et elle peut aussi, parfois, nous corriger. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, oui. Quand je lis la Bible, elle me corrige. Quand je lis la Bible, elle me reprend. Quand je lis la Bible, elle pointe l'orgueil qui est sur ma vie. Et combien j'ai besoin de demander pardon à Dieu et de fixer mes regards sur sa grâce et sur son amour. La Bible est là comme un miroir, pour refléter la crasse qui est à l'intérieur de mon cœur. Et c'est Jacques qui le dira. Si tu regardes ton reflet et puis que tu t'en vas en laissant ça de côté, ben il ne va rien se produire dans ta vie. Mais si tu laisses le miroir de la parole de Dieu refléter la crasse qu'il y a en toi et ton besoin du secours de Jésus, alors la transformation va pouvoir prendre place dans ta vie. Quand tu laisses la lumière de Dieu et le Saint-Esprit venir imprimer ça au plus profond de ton cœur, cette parole de Dieu est là pour faire de nous des hommes et des femmes solides, frères et sœurs. Et elle est encore efficace aujourd'hui. Nous devons apprendre de Jésus par l'exemple que nous laissent les Écritures. Pascal Denot dira, en étant centrée sur l'Écriture, l'Église sera en harmonie avec la volonté de Dieu pour sa mission, ses relations, l'amour et tout ce qui peut concerner une vie d'Église. Si la parole n'est pas notre seul guide, nous nous éloignerons forcément de la volonté de Dieu. J'ai particulièrement apprécié l'intervention de Florian Carriol la semaine dernière qui nous parlait de la volonté de Dieu et beaucoup de gens disent « Mais c'est quoi la volonté de Dieu ? Je ne sais pas. » Quand tu ne sais pas trop c'est quoi la volonté de Dieu, déjà plonge tes regards dans les Écritures. J'aime cette mention quand il a mis l'emphase sur le fait que la Bible nous invite à aimer le Seigneur de tous nos cœurs, toute notre âme et toute notre pensée et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, il suffit juste d'appliquer ça. Commencer à chercher Dieu, chercher sa face. C'est ce que Dieu veut, qu'on l'aime en premier et puis qu'on aime les autres et que ça se manifeste dans du concret, dans le quotidien. La volonté de Dieu, c'est de vivre la parole de Dieu pour nos vies. Point suivant, l'écriture seule doivent être, les écritures seules doivent être proclamées pour opposer le mensonge à la vérité. De Timothée 4, 1 à 4, c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. L'Église doit être porteuse du message de l'Évangile. L'expression grecque ici, quand Paul dit à Timothée « Je t'en supplie », suggère une directive contraignante au vu du retour et de l'imminence de ce retour de Jésus-Christ. Paul demande expressément à Timothée d'annoncer le message de l'Évangile afin que les gens soient prêts pour le retour de Jésus et pour que les gens soient réconciliés avec lui. Le plan de Dieu n'est pas que les hommes soient jugés, mais qu'ils soient sauvés par Jésus-Christ. Et il encourage, il fortifie Timothée à lui dire « Ne regarde pas aux circonstances, mais annonce, sois un témoin de l'Évangile. » Et nous sommes invités à que notre vie soit une prédication, que notre parole, notre bouche, nos témoignages soient une prédication pour les gens qui nous entourent. Nous sommes invités à manifester ce message. Et ce que j'aime, c'est que Paul demande à Timothée de le faire avec un souci d'instruire. C'est-à-dire que nous devons communiquer, témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies, pas de manière légaliste en claquant une rafale de versets aux gens. Voilà, j'ai dit la parole de Dieu. Mais c'est dans un souci de construire quelque chose dans la vie des gens. Que ça prenne quelque chose, que ça amène quelque chose dans la vie des gens sur laquelle ils peuvent s'appuyer, sur laquelle ils peuvent fonder leur confiance. C'est de les amener à fixer les regards sur Jésus et dire « il y a de l'espoir pour moi en Jésus-Christ ». Ce n'est pas de manière légaliste que Paul encourage Timothée. Mais dans ce truc de ce souci d'instruire. Mais il y a un sentiment d'urgence dans le message de Paul. Il explique qu'un temps va venir où les gens n'accepteront plus le message de l'Évangile, mais préféreront des discours qui plaisent à leurs oreilles. Vous savez, ce genre de message où je suis le centre. Il faut que Dieu me bénisse. 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 Moi, moi, moi et toujours moi. Un temps où les gens vont préférer un discours qui plaît à leurs oreilles. Vous savez, un des signes des temps de la fin, c'est le rejet de l'absolu, de la vérité absolue, de tout absolu. Aujourd'hui, on entend chacun à sa vérité. Et on veut nous faire croire que toutes ces soi-disant vérités se valent. Mais déjà, c'est impossible. Si toi, tu as la vérité, que moi j'ai la vérité, que ça s'oppose, il y a un problème. Alors, ils proclament ça comme des vérités. Mais il y a un véritable problème, ça ne tient pas la route. Vous savez, s'il est vrai qu'en tant que disciples de Jésus, nous devons respecter les opinions des autres et accepter leurs choix, respecter leurs choix, il n'en demeure pas moins que nous ne devons pas tout accepter pour vérité pour nos vies. D'accepter toute vérité pour nous-mêmes. En tant que chrétien, je dois être un témoin de Jésus, et respecter celui qui est à mon côté, puis s'il n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas à le forcer à accepter mon message. Je dois le respecter, son choix. Mais le problème, c'est que notre société, elle fonctionne un petit peu à l'envers maintenant. On a modifié le sens du mot tolérance. Aujourd'hui, on vit dans une tolérance intolérante. C'est une tolérance qui vogue dans un sens. La tolérance, normalement, c'est censé faire que ben, voilà, on peut fonctionner ensemble même si on n'est pas d'accord. Mais la tolérance de notre société d'aujourd'hui, c'est si tu ne crois pas le message que je te dis, alors je te rejette. Et alors on dit que nous, chrétiens évangéliques, on est des gens intolérants parce qu'on accepte, soi-disant, on n'accepterait pas le discours des autres. Mais en fait, eux sont intolérants avec nous puisque à partir du moment où on n'est pas d'accord, et on peut parler du mariage pour tous et toutes ces manifestations qui ont pris place, on nous a catalogués de gens intolérants et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on était, on n'était pas dans le système de pensée unique. Aujourd'hui, on est dans une tolérance intolérante. Cette tolérance ne marche que pour ceux qui fonctionnent dans la pensée unique. Pascal Denot dira que tous les grands réveils de l'histoire de l'Église furent provoqués par la prédication de la parole. Lorsque la vérité est proclamée, exposée et appliquée, la lumière jaillit. Le réveil protestant a pris place alors que des hommes et des femmes ont redécouvert les vérités de la parole de Dieu. Lorsque Luther a redécouvert le salut par grâce en étudiant l'Épître aux Romains, c'est venu le chercher. Ces vérités sont venues le chercher, ça a fondé ses convictions. L'Église médiévale, elle avait soif d'argent, elle avait soif de pouvoir et soif de contrôle sur les peuples. Et elle avait abandonné Jésus, même si elle se revendiquait de son nom. L'apparence était là, mais plus la force, plus la puissance de l'Évangile. Je vous pose une question ce matin, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes au bord d'un cours d'eau, un cours d'eau qui descend de nos belles Vosges, qui descend dans nos plaines d'Alsace. Admettons que l'eau elle est polluée ici, que l'amont est là et l'aval est là. Où est-ce que je vais pour pouvoir m'hydrater avec une eau pure ? En amont, en haut ou en aval en bas ? Vous n'êtes pas sûr ? L'eau coule par là. Donc l'eau, je vais la chercher où si je la veux pure ? En amont. Si on ne veut pas être souillé par certaines choses, on a besoin de revenir au fondement. C'est ce que Luther a redécouvert. Et les autres, bien sûr. Quand l'eau est polluée à un endroit, si nous voulons retrouver une eau pure, on a besoin de retourner en amont. Aujourd'hui, vous savez, notre société veut réinventer un Jésus qui lui convienne. Alors on met souvent un Jésus humaniste, un modèle de perfection humaine, mais par contre, on rejette la divinité et les miracles. Malheureusement, les protestants libéraux aujourd'hui ne prennent qu'une seule partie un peu de l'écriture, ce qui parle d'un Jésus humaniste qui est un bon penseur et qui doit être un modèle pour nous, mais il n'est pas Dieu. Il ne fait pas de miracles, on rejette tout le côté des miracles, tout ce que la parole déclare. En fait, on prend juste une partie de la parole et on en rejette une autre. On fait un peu le tri, on fait un peu ce qui nous plaît. On fait penser aux juges des juges, dans ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. On est un peu dans une société, on fait un peu notre popote. Et même dans nos milieux évangéliques, il y a des gens qui font un peu leur popote. On fait partie des églises universelles, on achète une église locale, puis je vais chercher ça, puis voilà, j'aime le Seigneur. Mais on ne peut pas faire le tri de ce qui nous plaît, de ce qui ne nous plaît pas dans la parole de Dieu. On doit l'apprendre à l'amour et l'appliquer pour nos vies. Et la vie et la vivre. Attention à ne pas nous créer un Jésus à notre image. Je vais faire la déclaration suivante ce matin. Ne te façonne pas un Jésus à ton image, mais laisse la Bible te révéler celui qui veut te façonner. Ne te façonne pas un Jésus à ton image, mais laisse la parole de Dieu, laisse la Bible te révéler celui que lui veut te façonner. On a besoin du travail de Dieu dans notre vie. Dans Luc 11, versets 27-28, Jésus va expliquer celui qui est au bénéfice de la faveur et de la grâce de Dieu. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ce passage, il nous montre la faculté que nous avons tout le temps à nous détourner de Jésus pour aller faire notre petite religion, pour aller faire notre façon que nous, on a décidé de faire notre culte à Dieu. Vous savez, les Hébreux, ils ont fait exactement la même chose. Moïse n'était pas parti depuis 5 minutes qu'on a créé un beau veau d'or, et puis on a dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le mot qui est employé, c'est le mot Elohim, celui qui parlait du Dieu en qui nous croyons. On a créé une idole et on a gardé la façade. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. On a cette faculté, nous, à toujours nous détourner et à nous créer un Dieu à notre convenance. Cette femme, elle cherche à se détourner de Jésus pour honorer la mère de Jésus, Marie. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant que la Bible nous parle de quelque chose qui va prendre place plusieurs années. C'est un petit peu pour moi comme si ce passage était prophétique de ce qui allait se passer dans les centaines d'années après. On détourne les regards de Jésus pour les mettre sur autre chose. Ah, ils sont heureux, celle qui t'a donné la vie. Jésus répond, heureux plutôt celui qui prend ma parole et qui la garde. Jésus va tout de suite replacer le focus, le viseur, l'œilleton sur les vraies choses. Il va dire que celui qui est heureux, en grec makarios, qui peut être traduit par « est béni » ou « à la faveur de Dieu », celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Celui qui place sa confiance dans la parole de Dieu expérimente la faveur, la grâce et l'amour de Dieu pour sa vie. Le livre des Actes nous laisse l'exemple de juifs un petit peu particuliers, les juifs de Bérée. Acte 17, 10 à 11 nous dit « Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » On voit ici le bon réflexe de cette communauté juive qui a reçu le message de Jésus, qui fait preuve d'ouverture d'esprit, mais qui sonde, qui vérifie, en comparant les Écritures de l'Ancien Testament avec le message que les disciples sont en train de leur annoncer. Leur attitude, elle est simple, elle est ouverte, et on voit qu'ils étaient déterminés à évaluer tout enseignement à la lumière des Saintes Écritures, et les Écritures honorent ces gens-là. Ils avaient des sentiments plus nobles. Ils avaient une soif de Dieu. Ils étaient prêts pour la rencontre avec Jésus-Christ. Mais ils examinaient, ils regardaient si ce qu'on leur disait, c'était exact. Malheureusement, cette mentalité de Bérée est en train de disparaître de nos mouvements, de nos églises. Plusieurs chrétiens sont à jour dans leur série télé. Peut-être c'est votre cas ce matin, mais la Bible, elle n'a pas été ouverte depuis dimanche dernier. On est à jour dans nos programmes télévision, mais la parole de Dieu, elle est restée fermée. J'ose pas dire le reste de la phrase qui est sur Facebook, et ça se dit chrétien, je l'ai dit. On veut du tout cuit. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas l'intimité et la relation. On veut juste la plus-value que ça peut apporter, mais on ne veut pas le temps passé dans la présence de Dieu. Qu'on ne soit pas des moutons, frères et sœurs, qui prennent bêtement pour argent comptant tout ce qu'on peut entendre et voir circuler, et même sur Internet. Ne nous laissons pas manipuler par les enseignements de certains prédicateurs qui sont avides d'argent, qui nous promettent des bénédictions au centuple si on commence à financer leur ministère, qui nous promettent une vie facile, qui nous promettent une vie sans problème, qui nous promettent une vie sans souffrance, si on met leurs principes à eux en action dans nos vies. Jésus ne nous a jamais promis ça. Ces apôtres, pour la plupart, sont morts en martyrs à cause de leur attachement à Jésus-Christ. La tradition dit que Pierre est mort crucifié la tête à l'envers. Si l'apôtre Jean n'a pas été tué, la tradition dit qu'il a été ébouillanté à cause de sa foi. Mais c'est ces gens-là qui sont des exemples comme l'apôtre Paul qui dit « Lâche pas, Timothée, ce que tu as appris, ce que tu as reconnu comme certain pour ta vie. » Vous savez, Jésus ne nous a jamais promis de nous éviter toute souffrance. Il ne nous a jamais dit, nous promis de nous expliquer pourquoi nous avons des souffrances qui s'abattent, mais il nous a promis sa présence dans notre souffrance, sa présence à nos côtés dans chaque instant de nos vies. Vous savez, Satan est quelqu'un qui se déguise en ange de lumière. Je sais que souvent on le visualise avec des cornes, une tête rouge bien méchante où on le voit arriver avec ses grands sabots. Mais la Bible et Paul dans l'Épître aux Corinthiens nous dit qu'il se déguise en ange de lumière pour nous séduire, pour nous attirer. Matthieu 7:21, c'est Jésus qui parle, il dit « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Et on l'a vu tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est de vivre, de croire en Jésus et de vivre sa parole pour nos vies. La Bible nous relate aussi des gens qui chassaient des démons au nom de Jésus et qui diront devant Jésus « Mais est-ce que nous, on n'a pas chassé des démons en ton nom ?» Et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il ne dit pas « Je ne vous connais pas ». Il dit « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Je ne vous ai jamais connu. On peut utiliser le nom du Seigneur comme une décoration et puis pas vivre la réalité de ce qui se passe, de cette relation avec Dieu. Examinons l'ensemble des Écritures, examinons l'ensemble des promesses, celles où Jésus nous assure de sa présence, de son appui en toutes circonstances, favorables ou non, dans les temps faciles comme dans les temps difficiles. Alors maintenant, on va faire une petite parenthèse. Enfin, on va faire deux, mais la première, c'est est-ce que du coup, je dois rejeter toutes les traditions parce que je crois au sola scriptura? Et là, je pense qu'il faut remettre aussi un équilibre. Si on a vu que certaines doctrines catholiques n'étaient pas bonnes, on doit aussi quand même les remercier d'avoir préservé la doctrine de la Trinité. Il y a eu plusieurs conciles, des débats de théologiens dans l'histoire où ces théologiens ont affirmé et réaffirmé la Trinité, chose essentielle dans la parole de Dieu. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, notre boulot à nous, ce n'est pas de dire, ben voilà, on revient aux Écritures, on balance toutes les traditions de l'Église, rien n'est bon. Mais on doit examiner ces traditions à la lumière de l'Écriture. Vous savez, Jésus a instauré la Sainte Cène. On nous parle du baptême. On nous parle de comment on doit vivre notre vie de prière, comment l'Église est invitée à se rassembler en tant que communauté. Alors je sais que c'est à la mode en ce moment un petit peu les chrétiens papillons qui ont leur petite vie sur Internet. Moi, je crois en Jésus, mais je n'ai pas d'Église. Ou moi, je crois en Jésus, mais je ne donne pas mon argent parce que ça, c'est des trucs de l'Ancien Testament. Il y a des choses qui sont claires dans la Bible, on en a déjà parlé dans le Nouveau Testament. Jésus dit, regardez cette dame qui a donné de son nécessaire, qui a été plus loin dans l'offrande quand elle l'a mise. Ça représentait une journée de salaire de travail sur ces 7 jours. Il y a des choses qu'on doit garder, mais on doit les examiner à la lumière de la parole. Ce qui est de la tradition et qui n'est pas biblique doit être ôté. Et en cela, nous devons être en constante réformation. Mais il y a des traditions qui ont été établies, qui ont été préservées par Dieu et par l'Église, et sur lesquels nous devons nous appuyer. Donc, on ne doit pas tout jeter. Une seconde parenthèse, alors on va me dire, mais si on doit revenir aux traditions, aux fondements, est-ce que ça veut dire qu'on doit refuser la modernité dans notre communication? Je vous pose la question. Il est important pour nous de rejoindre les gens dans leur réalité. Si on ne doit pas toucher au fond, si le fond doit rester identique, cet appui sur la parole de Dieu, notre forme doit s'adapter pour rejoindre les gens. Vous savez, lorsque Luther a traduit la Bible, il l'a vulgarisé dans les mots pour que le peuple allemand puisse comprendre la parole. Il a adapté les mots pour que la parole de Dieu puisse rejoindre chacun dans ce qu'il vivait. Il a rejoint les gens de son époque. Un célèbre théologien, Clark Pinnock écrira que la théologie devrait être autant conservatrice que contemporaine. Le premier indiquant qu'il existe des limites d'adaptation que nous ne pouvons transgresser parce qu'elles représentent des éléments essentiels de la proclamation apostolique. Ce que les apôtres ont déclaré, c'est sur ces choses-là qu'on doit s'appuyer et transmettre. Et le second pôle indiquant notre propre responsabilité envers les auditeurs contemporains de l'Évangile à qui nous désirons communiquer le message de manière significative et pour qui nous voulons l'appliquer avec créativité aux situations modernes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la déco qui a été faite derrière. On a Timothée Schulz, qui est un créatif dans notre église, qui a été aidé par Jonathan et Laura Moya, qui ont passé des heures pour préparer une déco pour notre génération qui est aujourd'hui visuelle, qui a besoin de voir des belles choses. Et ils ont investi du temps, de la sueur, de l'investissement pour mettre en valeur la parole de Dieu, pour mettre en valeur la foi, pour mettre en valeur Jésus, pour mettre en valeur la grâce, et pour que tout ça finalement soit pour la gloire de Jésus. Alors moi je remercie le Seigneur pour les créatifs. Ouais, on peut les applaudir, hein, pas de souci. Merci Seigneur pour la créativité qu'il a placée au milieu de nous. Et vous savez que Martin Luther en 1500, il est passé, était très ouvert à cela. Et voici son avis sur la musique. Alors là, c'est sur la musique, mais ça peut se voir plus large, au service des jeunes pour la gloire de Dieu. Et il dit, je désire que les jeunes aient à leur disposition quelque chose qui les libère de leurs chansons d'amour et de leurs chansons légères, qu'ils apprennent des chants saints et se consacrent ainsi de bon cœur au bien. De plus, et là il y va fort, je ne partage pas l'avis de certains bigots. Un bigot, c'est quoi? C'est un chrétien à l'esprit superstitieux. Il dit, je ne partage pas l'avis de certains bigots qui pensent qu'il faut supprimer tous les arts au nom de l'évangile. J'aimerais bien, au contraire, que les arts, en particulier la musique, se mettent de bon cœur au service de celui qui nous a fait don et qui les a créés. Dieu nous a confié des qualités et des dons pour que sa gloire soit manifestée en fonction de ce qu'on a reçu. Je remercie le Seigneur pour les créatifs et je sais qu'il y en a plein d'autres. Et j'espère que ça, c'est juste le début de quelque chose qui va prendre place au milieu de nous à l'épi. Et puis je veux le déclarer prophétiquement. C'est des choses qui vont prendre place au milieu de nous. Amen. On va conclure ce matin. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Alors qu'on termine, je veux nous lancer un défi à tous ce matin. Est-ce que quelqu'un veut être cette génération à l'ancienne comme les Juifs de Béret qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne est exact? Amen. Est-ce qu'il y a une génération qui dit « Moi, je veux m'appuyer sur la parole de Dieu pour mon quotidien. » Est-ce que je veux m'appuyer sur la parole de Dieu? On l'a chanté tout à l'heure dans le psaume 119, qui est une lampe qui éclaire mon sentier. La lampe, elle est là pour mettre le focus sur les pierres, sur les problèmes qu'il peut y avoir sur la route pour pas qu'on trébuche. Est-ce que des gens veulent dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta parole pour qu'elle éclaire mon sentier, pour qu'elle me purifie, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, pour qu'elle produise ce travail en nous, qu'elle soit cette déclaration que nous proclamons. Les gens ont besoin d'entendre de l'évangile et ça passe par chacun d'entre nous, par le témoignage d'une vie vécue, fondée sur les Écritures. Amen. Que nous puissions vivre ça au quotidien.